Ça a commencé ? L'émission a commencé ?
Debout !
Énorme ! Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances ?
Le football, il a changé.
Good morning tour. Bonjour à toutes et à tous, il est 7h17 sur Radio Campus Tours, l'heure de la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Je suis Théo Leur et c'est un plaisir de vous accompagner pendant environ une heure en ce vendredi 27 septembre 2024. Au programme de cette deuxième édition de la saison, de l'info, du sport et d'autres thèmes divers abordés par la promotion de Master 2 et bien sûr de nouveaux étudiants de Master 1 dont certains sont en studio aujourd'hui pour aussi s'imprégner du fonctionnement de cette émission. Ce matin, nous retrouverons Victoire Renard de Winter qui partagera son amour pour Estival pour la ville de Pau. Vous aurez aussi l'occasion d'entendre une nouvelle voix, celle de Jules Frécon qui pour sa première à l'antenne nous parlera des lettres de fans d'une sitcom française des années 80-90. Nous évoquerons ensemble les élections américaines de novembre prochain avec pour thème aujourd'hui les swing states, ces états cruciaux pour les démocrates comme pour les républicains. Jules Bourbotte nous offrira un moment poétique et lyrique avec pour thème « Écrire pour soi ». Lou Attard nous parlera des dérives vers les idées de droite et d'extrême droite de l'Institut Libre de Journalisme. Au Flash Info la semaine dernière, Angelina Richard analysera pour nous cette semaine la composition du gouvernement de Michel Barnier. Après l'information générale la semaine passée, Mathis Baudet reviendra pour nous sur l'actualité sportive. Et puis Baptiste Villermé lui ouvrira la voie avec son analyse sur la carte de l'événement MMA de cette rentrée, l'UFC Paris 3. Mais avant d'entamer ce programme riche et chargé, place au flash info de la journée par notre présentateur habituel, que l'on aura plaisir à retrouver un peu plus tard. Baptiste Villermé, vous êtes bien dans Good Morning Tour, il est 7h18.
L'espoir d'un cessez-le-feu rapide au Proche-Orient, balayé par Israël. Le gouvernement n'a pas répondu à la proposition des Français et des Américains au sujet d'une trêve de 21 jours dans les combats entre Israël et le Hezbollah. Benjamin Netanyahou a déclaré que son armée poursuivrait son combat coûte que coûte. Le ministre des Affaires étrangères israélien a lui ajouté qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu jusqu'à la victoire. Depuis les premières frappes sur le Liban, les autorités du pays dénombrent 92 morts et 153 blessés. Une Française de 87 ans a été tuée à la suite d'une forte explosion dans la journée de jeudi. Après le meurtre de Philippines, des féministes et élus de gauche appellent à ne pas se tromper de débat. De nombreuses voix s'élèvent et invitent à penser ce crime sous le prisme des féminicides et non de l'immigration. La députée écologiste de Paris, Sandrine Rousseau, a déclaré sur France Inter que « dire que les femmes sont en danger à cause des étrangers sous obligation de quitter le territoire OQTF n'est pas vrai ». Elle affirme que la violence vient des hommes, de beaucoup d'hommes, de toutes couleurs et de toutes situations. Fin de citation. L'extrême droite s'est saisie de la tragique affaire après la découverte du profil du principal suspect, un Marocain de 22 ans, condamné par le passé pour viol et sous le coup d'une OQTF. Le maire démocrate de New York, inculpé pour corruption et financement illégal de campagne. Eric Adams a été arrosé en secret pendant des années de pots de vin. Ce sont les mots du procureur de Manhattan qui a annoncé jeudi l'inculpation de l'élu américain. Il est reproché à Eric Adams des faits de fraude électronique, sollicitation illégale de contribution de frais électoraux auprès d'une personne étrangère, ainsi que d'avoir accepté des pots de vin de la part d'un officiel turc. Dès l'annonce de son inculpation, le maire s'est dit innocent. Lactalis va réduire sa collecte de lait en France, une annonce qui inquiète. En effet, le groupe laitier a indiqué une baisse de 8% de ses volumes de collecte, ce qui représente 2% du lait français. Au micro de France Info, le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, parle d'une déflagration pour le milieu laitier. Selon lui, c'est près de 450 millions de litres de lait qui ne vont pas être collectés d'ici 2030. Pour nous, l'enjeu, c'est d'assurer que les producteurs de lait continueront à trouver quelqu'un qui collecte leur lait, explique-t-il. La violoncelliste Ophélie Gaillard s'est fait voler son violoncelle datant de 1737 à son domicile en Haute-Savoie. Montant de l'instrument estimé, plus d'1,3 million d'euros. Les voleurs se sont introduits dans sa maison pendant la nuit alors qu'elle dormait avec sa famille. La violoncelliste a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux pour retrouver son instrument. Elle précise qu'il est impossible de le revendre car son violon est rare, identifié et tracé, à l'instar des œuvres d'art. C'est l'horreur, c'est une catastrophe, a-t-elle cité à France Info. Et on termine avec un petit point météo. Ce matin à Tours, il fera 14 degrés avec un ciel couvert. Des orages sont prévus dans l'après-midi avec de la pluie dans la soirée. Ce week-end, le ciel sera voilé avec 14 degrés samedi et 14 degrés également dimanche. Et oui, l'automne est bel et bien là.
«
Merci Baptiste Villamé pour ce flash info. On vous retrouve un peu plus tard pour évoquer l'événement d'arts martiaux mixtes de la rentrée de l'UFC Paris 3. En attendant, on marque une première petite pause dans cette matinale et tout ça en musique avec Kingston Town de UB40.
Direction le paradis, sert de pas d'ici, on est ensemble et y'a personne autour. J'ai mis 10 ans à le trouver, ce sentiment de plénitude quand autour de moi c'était le chaos, focus dans les études quand je me sentais bien pour la première fois. T'es apparu à Paris, j'y croyais pas, cœur cogné comme en plein sparring. Y'a pas de bon ou de mauvais, juste des gens qui font de leur mieux. Regarde-nous aujourd'hui, je crois qu'on réussit à rendre fier nos vieux. Ça se voit dans leurs yeux, la joie dans les nôtres aussi. Et quand je te regarde, j'y vois l'alchimie. J'y vois l'alchimie, et quand je te regarde, ben, j'y vois l'alchimie. J'y vois l'alchimie. J'fais pas de bilan à ce stade, on trouve l'alchimie est stable. Pas nos petits cœurs, mais bon, pose-nous une seconde. Ça fait une seconde. Les suivantes, j'veux toutes les passer avec toi. Avec toi, avec toi. Toutes les passer avec toi. Avec toi. Avec toi, tout est passé avec toi. Et y'a personne autour.
C'était finalement seconde de TZK à cause d'un petit problème technique, mais tout va bien, non ? Parfait. Non, j'ai cru qu'on n'était pas en direct. Alors, il est 7h24, vous êtes bien sur Radio Campus Tours dans Good Morning Tours, la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. On parle maintenant de sport. Demain, à l'Accor Arena de Paris-Bercy, les passionnés de sport de combat ont rendez-vous avec l'UFC, la plus grande fédération internationale de MMA. Pour son troisième événement en France, l'organisation a de nouveau choisi Paris, mais a changé de tête d'affiche. Baptiste Villarmé est en studio pour nous en dire plus.
L'UFC Fight Night Paris 3, c'est demain. Dès le premier événement en 2022, il y avait eu beaucoup de rumeurs d'une délocalisation ailleurs qu'à Paris. Nice avait été citée. Logique, puisque c'est la ville d'origine de Manon Fiorot, combattante française des poids mouches, elle est sûrement la plus proche de remporter une ceinture de championne de l'organisation. Au-delà du choix de Paris, la carte n'est pas construite de la même façon que les autres années. Présente lors de la dernière édition, Manon Fiorot n'est pas là ce week-end. Mais le vrai grand absent est Cyril Gane. Si quelqu'un incarne l'UFC et le MMA en France, c'est bien le français, ancien champion du monde poids lourd par intérim. Lors du main event en 2022 contre Tei Tuivasa et en 2023 contre Sergei Spivak, il avait remporté ses deux duels par KO avant la limite.
Donc ce ne sont pas ses performances à domicile qui justifient ce choix ?
Non, en effet. Le choix de l'UFC se justifie surtout par la performance de Gane face à John Jones pour le titre de champion du monde poids lourd le 5 mars 2023. Un combat perdu en à peine 3 minutes par le français qui a remis en cause son niveau aux yeux de l'organisation. En plus, le fait qu'il ait refusé plusieurs combats à cause d'engagement dans le cinéma n'a pas fait bonne impression auprès des Américains. Sans Cyril Gane, la carte reste tout de même la vitrine des combattants français pour l'UFC. Sur les 14 combats de demain soir, 9 impliquent des athlètes tricolores. En tête d'affiche de ce troisième événement, l'ancien militaire des forces spéciales Benoît Saint-Denis contre le brésilien Renato Moicano.
Mais pourquoi plus Saint-Denis qu'un autre ?
Alors, d'abord et avant tout parce qu'il a enchaîné les performances impressionnantes. Sur ses 6 derniers combats, il en a reporté 5 de suite avant la limite par KO ou soumission, de quoi taper dans l'œil des organisateurs. Et puis c'est pour les raisons inverses de celles qui ont coûté sa place à Cyril Gane, Benoît Saint-Denis s'est toujours rendu disponible pour l'UFC. Pour son premier combat dans l'organisation, il accepte d'affronter en dernière minute un combattant d'une catégorie de poids supérieure dont l'adversaire s'était blessé. Pour son dernier combat le 9 mars dernier contre Dustin Poirier, pourtant malade à quelques jours du combat, il a quand même tenu à combattre pour sauver l'affiche principale.
C'est donc une façon de remercier le Français.
Oui Théo, c'est un peu ça. L'idée semble surtout de faire d'une pierre plusieurs coups, sanctionner Cyril Gagne, pas assez disponible pour l'UFC, et remercier Benoît Saint-Denis pour son implication sans faille. Et peut-être aussi s'assurer d'autres têtes d'affiche crédibles auprès du public français pour les futurs événements en France. Les prochaines stars du MMA français à l'UFC sont de toute manière sur cette carte. En plus de Benoît Saint-Denis, il n'y a que des athlètes de talent, avec Nassourdin Imavov, proche de la ceinture des poids moyens, Morgan Charrière, favorite du public français, ou encore Oumar Sy, toujours invaincu en carrière. Une belle soirée de combat dans une ambiance de stade de foot à suivre sur les antennes de RMC Sport dès 18h demain soir.
Et vous pourrez d'ailleurs profiter des derniers combats de cette soirée en clair sur la chaîne RMC Découverte. Merci beaucoup Baptiste Villermé. Après les sports de combat et l'UFC en particulier, on continue à parler de sport avec le Flash Sport par Mathis Maudet.
Bonjour Théo et bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité sportive de ce vendredi 27 septembre 2024, à la une du football avec la fin de la première journée de la Ligue Europa. L'Olympique Lyonnais s'est imposé hier soir 2-0 contre les Grecs de l'Olympiakos. Il aura fallu attendre les buts de Ryan Cherki puis de Saïd Benrahma dans la seconde période pour sécuriser la victoire. Mercredi, c'est Nice qui avait entamé la compétition contre la Real Sociedad avec un match nul 1 partout. Alors qu'ils étaient menés en début de partie, les Aiglons avaient su égaliser à la 45e minute grâce au Néerlandais Pablo Rosario, auteur de son deuxième but toute compétition confondue cette saison. Jeudi prochain, Lyon se déplacera à Rome pour affronter le club de la Lazio, alors que Nice ira à Glasgow défier les Rangers sur leur pelouse. Nous verrons si nos clubs français confirmeront après leur entrée en lice réussie dans cette Europa League. Rappelons qu'en Ligue des Champions, autre compétition européenne, Brest, Paris et Monaco ont eux aussi marqué des points en remportant leur premier match une semaine plus tôt. Cette fameuse coupe aux grandes oreilles, il avait eu l'occasion de la soulever à 4 reprises avec le Real Madrid en 2014, 2016, 2017 et 2018. Raphaël Varane, le défenseur central français, a annoncé à la Planète Foot qu'il mettait un terme à sa carrière de joueur professionnel. La faute à une blessure au genou apparue en août dernier dans son club de Côme, en Italie. Avec 93 sélections en équipe de France, une Coupe du Monde en 2018, une Ligue des Nations en 2021 et 4 Ligues des Champions remportées avec le Real, où il a évolué 10 ans, de 2011 à 2021, Raphaël Varane quitte les terrains avec l'un des plus beaux palmarès du football français. Sur Instagram, il a déclaré, je cite, « Au cours de ma carrière, j'ai relevé de nombreux défis, vécu des émotions incroyables et des souvenirs qui dureront toute une vie. En réfléchissant à ces moments, c'est avec une immense fierté et un sentiment d'accomplissement que j'annonce ma retraite du jeu que nous aimons tous. » Il a également annoncé souhaiter rester à Côme pour commencer une nouvelle vie en dehors des terrains. On prend désormais la direction de Zurich, en Suisse, où se disputent les championnats du monde de cyclisme et paracyclisme depuis le week-end dernier. Le champion du monde en titre, Remco Evenepoel, s'est imposé sur le contre-la-montre ce dimanche 22 septembre, en devançant l'autre favori, l'Italien Filippo Ganna, pour seulement 6 petites secondes sur un parcours de 46 km. Après la course, le Belge est revenu en interview sur sa victoire et sur l'instant où il aurait pu perdre la course avant le... Vous l'aurez pu perdre la course. Ma chaîne a sauté à seulement une minute du départ. Mon capteur de puissance ne fonctionnait pas. J'y suis allé aux sensations. Je ne pouvais pas mettre trop de puissance au début. J'ai donné beaucoup sur le deuxième secteur et les 5 derniers kilomètres. C'était l'un des chronos les plus difficiles de ma vie, a-t-il dit. Déjà auteur du doublé contre-la-montre course en ligne aux Jeux Olympiques de Paris cet été, le Belge visera la victoire dans la course Rennes en guise de clôture de ses championnats du monde ce dimanche 29 septembre. Mais la concurrence sera rude avec un Tadej Pogacar en forme, auteur du doublé Tour d'Italie, Tour de France cette année, et vainqueur il y a une dizaine de jours du GP de Montréal au Canada. Autre fait marquant du week-end, mais cette fois-ci dans l'e-sport, la structure professionnelle de jeux vidéo française Karmine Corp a inauguré son nouveau stade de 3000 places ce vendredi 20 septembre. Les arènes de l'Agora d'Evry-Courcouronnes étaient remplies par des supporters de la K-Corp, car pour la première fois en France et en Europe, un club d'e-sport a enfin sa propre salle. L'équipe de jeux vidéo va jouer à domicile au moins une dizaine de fois par an dans son arène jusqu'en 2029. Et à l'instar du sport traditionnel, quand les joueurs de la Kameto Corp ont gagné 3-0 contre Game Guard dans le cadre de la Coupe de France de League of Legends, leurs fans ultra ont célébré leur victoire. Et Hier soir, Théo, il y avait autant, voire plus d'ambiance au stade de la Vallée du Cher pour le premier match de championnat de nos joueurs de l'EPJT Football Club. Première rencontre et première victoire 3-1 avec la manière contre l'équipe Point P. Alors qu'ils étaient menés au score à la mi-temps, c'est en deuxième période que nos joueurs ont fait la différence. Les arrêts du gardien du but Baptiste Villermé ont permis à l'EPJT de rester en vie dans la partie avant que Julian Schneider, Martin Collat et Thomas Langeard inscrivent les buts victorieux. Un petit mot, Théo, sur cette victoire ?
Bah oui, on félicite bien sûr tous les joueurs, mais surtout et pour ce très beau début de saison pour le PJTFC en championnat, et puis surtout un grand bravo aux supportrices et supporters présents hier soir en bord terrain qui ont aussi beaucoup contribué à cette victoire dans les derniers instants, donc comme vous le disiez. Merci beaucoup Mathis Maudet. Vous êtes toujours sur Radio Campus Tours, il est 7h32. On vous annonçait vendredi dernier que Michel Barnier, nouveau Premier ministre français, avait proposé 39 ministres, on connaît maintenant les noms. Mais alors qu'en est-il, Angelina Richard, que nous réserve ce nouveau gouvernement ?
Pour commencer, mettons un peu de contexte. Après l'arrivée en tête aux élections législatives début d'été de la coalition de gauche, le Nouveau Front Populaire, Emmanuel Macron a enfin nommé le Premier ministre Michel Barnier, faisant partie des Républicains qui n'ont eu qu'une quarantaine de sièges à l'Assemblée, comparé au NFP qui en a eu plus de 180.
Mais alors pourquoi ce choix et surtout qu'est-ce que ça dit de ce gouvernement ?
Déjà, qui est Michel Barnier ? Eh bien, il était plusieurs fois ministre sous François Mitterrand, mais aussi sous Jacques Chirac et puis Nicolas Sarkozy. Il fait partie de la droite conservatrice. Il a par exemple voté contre la dépénalisation complète de l'homosexualité en 1981, notamment en ne voulant pas mettre au même âge la majorité sexuelle pour les personnes gays au même titre que les personnes hétérosexuelles.
Mais alors pourquoi Macron l'a choisi, lui ?
Déjà parce qu'après un virage bien à droite d'Emmanuel Macron depuis ses 7 dernières années, choisir un ou une ministre de gauche aurait été un trop gros tournant malgré les résultats des législatives. Or, Michel Barnier est libéral et pro-européen, des convictions semblables à celles du président de la République. Ensuite, les plus grosses forces politiques des législatives après le NFP sont la droite et l'extrême droite. Les Républicains, avec Michel Barnier, étaient alors le parfait entre-deux. Emmanuel Macron évitait la censure du RN qu'il craignait.
Mais peut-être que Michel Barnier a nommé des ministres de gauche ou qui ne sont pas conservateurs ?
Et non, le nouveau Premier ministre dans la lignée du président n'a nommé qu'un ministre de gauche, Didier Migaud, du Parti Socialiste, qui est maintenant garde des Sceaux et ministre de la Justice. Certains ministres sont renouvelés, comme Catherine Vautrin, qui devient ministre du Partenariat avec les Territoires et de la Décentralisation. Rachida Dati, elle, reste à la Culture. Ou d'autres, comme Agnès Pannier-Runacher, Jean-Noël Barrot ou même Sébastien Lecornu. Mais bien sûr, beaucoup de nouveaux ministres qui ont d'ailleurs déjà fait parler d'elle. Commençons par Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur, qui a voté contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et ce n'est pas le seul. Il y a aussi Laurence Garnier, secrétaire d'État à la consommation. Bruno Retailleau ne s'arrête pas là, puisqu'il était en première ligne de la manifestation pour tous. Et encore une fois, il n'était pas le seul, puisque Catherine Vautrin était également présente. D'ailleurs, accompagnée de Laurence Garnier, Annie Genevard, Patrick Hezel, ils avaient voté contre le projet de loi pour le mariage des personnes du même genre en 2013. Othman Nastrou, ancien opposant au mariage également pour tous en 2013, avait déclaré « Je ne dis pas que le racisme et l'homophobie n'existent pas, mais ils sont l'apanage d'une infime minorité ». Othman Nastrou étant en charge de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations. En continuant sur les droits des personnes queer, certains ministres ont voté contre la loi interdisant les thérapies de conversion en 2021, comme Laurence Garnier ou encore une fois Bruno Retailleau. Pour rappel, ces thérapies visent à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'un individu, comme si être de la communauté LGBTQIA+ était une maladie.
Donc des craintes concernant les droits des femmes ou des personnes queer et des minorités de genre, mais aussi concernant d'autres points, non ?
Oui, comme l'écologie par exemple. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique et de l'énergie et du climat, était bousculée en 2022 par une histoire de conflit d'intérêts, puisque ses enfants étaient associés au producteur français de pétrole brut, Parenco. Greenpeace a d'ailleurs déclaré que le gouvernement de Michel Barnier semble déjà enfermé dans les logiques dépassées de l'ancien monde. Des propos aussi très durs envers l'immigration par le Premier ministre qui a déclaré dimanche sur France 2 qu'il y aura beaucoup plus de rigueur, il y aura des ruptures. Lui qui en 2021 défendait la suspension de l'aide médicale d'État. Bruno Retailleau avait lui déclaré « la colonisation était aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues ». Et ce n'est que des exemples parmi tant d'autres. En bref, un gouvernement conservateur, encore plus que le précédent. Plusieurs associations et collectifs nous mettent alors en alerte. Le Premier ministre Michel Barnier a même dû promettre au JT de France 2 dimanche dernier que les droits acquis sur des sujets de société comme l'IVG, les droits des femmes ou les droits LGBT seraient préservés par ses ministres.
Merci beaucoup Angelina Richard pour ces éclairages. On espère bien sûr que les droits fondamentaux ne seront pas remis en cause par ce nouveau gouvernement. Et puis pour suivre l'actualité du gouvernement Barnier, restez connectés à Good Morning Tour. On risque de l'évoquer au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Il est 7h36, le moment d'une petite respiration musicale qui annonce un petit peu le programme de la suite avec Long is the Road de Jean-Jacques Goldman. This is the rhythm of the night. Apparemment non, pas du tout. De retour sur Good Morning Tour sur Radio Campus Tour, encore une fois un petit problème technique, hein. Ce n'était pas Jean-Jacques Goldman comme vous avez pu l'entendre, mais bien Rhythm of the Night de Ice MC. Il est 7h41 bientôt sur le 99.5 FM et c'est l'heure du deuxième Flash Info du jour. Baptiste Duhiermé, c'est à vous.
L'espoir d'un cessez-le-feu rapide au Proche-Orient balayé par Israël. Le gouvernement n'a pas répondu à la proposition des Français et des Américains au sujet d'une trêve de 21 jours dans les combats entre Israël et le Hezbollah. Benjamin Netanyahou a déclaré que son armée poursuivrait son combat coûte que coûte. Le ministre des Affaires étrangères israélien a lui ajouté qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu jusqu'à la victoire. Depuis les premières frappes sur le Liban, les autorités du pays dénombrent 92 morts et 153 blessés. Une Française de 87 ans a été tuée à la suite d'une forte explosion dans la journée de jeudi. Après le meurtre de Philippine, des féministes et élus de gauche appellent à ne pas se tromper de débat. De nombreuses voix s'élèvent et invitent à penser ce crime sous le prisme des féminicides et non celui de l'immigration. La députée écologiste de Paris, Sandrine Rousseau, a déclaré sur France Inter que « dire que les femmes sont en danger à cause des étrangers sous OQTF, obligation de quitter le territoire, n'est pas vrai. Elle affirme que la violence vient des hommes, de beaucoup d'hommes, de toutes couleurs et de toutes situations. » Fin de citation. L'extrême droite s'est saisie de la polémique après la découverte du profil du principal suspect, un Marocain de 22 ans condamné par le passé pour viol et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Le maire démocrate de New York, inculpé pour corruption et financement illégal de campagne, Eric Adams a été arrosé en secret pendant des années de pot de vin, selon le procureur de Manhattan qui a annoncé jeudi l'inculpation de l'élu américain. Il est reproché à Eric Adams des faits de fraude électronique, de sollicitation illégale de contributions de campagne électorale auprès d'une personne étrangère, ainsi que d'avoir accepté des pots de vin de la part d'un officiel turc. Dès l'annonce de son inculpation, le maire s'est dit innocent. Lactalis va réduire sa collecte de lait en France, une annonce qui inquiète fortement. En effet, le groupe laitier a annoncé une baisse de 8% de ses volumes de collecte, ce qui représente 2% du lait français. Au micro de France Info, le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, parle lui d'une déflagration pour le milieu laitier. Selon lui, c'est près de 450 millions de litres de lait qui ne vont plus être collectés d'ici 2030. Pour nous, l'enjeu c'est de s'assurer que les producteurs de lait continueront à trouver quelqu'un qui leur collecte le lait, explique-t-il. Plus de 8 Français sur 10 préfèrent se rendre au cinéma en groupe. C'est le chiffre qui ressort de la dernière étude du Centre National du Cinéma, le CNC, sur les pratiques cinématographiques des Français en 2024. En deuxième position intervient les personnes qui se rendent en couple au cinéma, plus de 3 Français sur 10. Et du côté des sorties en solo, elles concernent seulement 2 Français sur 10. Parmi les spectateurs occasionnels de films, plus de 8 Français sur 10 préfèrent voir un film étranger en VF. D'après les estimations du CNC, les fréquentations des salles de cinéma ont atteint près de 19 millions d'entrées au mois de juillet dernier, en grande partie grâce à la fête du cinéma. Et on termine avec un point sur la météo. Ce matin à Tours, il fera 14 degrés avec un ciel couvert. Des orages sont prévus dans l'après-midi avec de la pluie en soirée. Ce week-end, le ciel sera voilé avec 14 degrés samedi et 14 degrés également dimanche. Sortez couverts.
Merci beaucoup Baptiste Villermé pour ces dernières infos. Comme promis, nous allons maintenant parler d'Amérique avec la chronique États-Unis spéciale pour cette année d'élections présidentielles outre-Atlantique. J-39 avant donc ces élections présidentielles américaines qui se tiendront le 5 novembre prochain aux États-Unis. La campagne présidentielle de l'actuelle vice-présidente et candidate démocrate Kamala Harris bat son plein, tout comme celle de l'ancien président et candidat à un nouveau mandat à la tête du pays pour les Républicains Donald Trump. Les deux candidats entament une série de meetings dans les swing states ou états pivots en français. Je vous l'accorde, quand on ne s'y connaît pas, l'expression anglaise n'éclaire pas plus que sa traduction. Essayons d'expliquer clairement cette particularité. Aux États-Unis, chaque état a un nombre de grands électeurs composé de personnes nommées par les partis politiques. Le nombre de grands électeurs par état est déterminé par sa population. Les états les plus peuplés en ont donc le plus et sont plus importants dans la course aux 270 grands électeurs sur 538 nécessaire pour gagner. Le principe de l'élection présidentielle est simple. Chaque électeur vote et les votes sont comptabilisés par État. Sauf qu'une règle constitutionnelle change la donne. Winner takes all, le vainqueur rafle la mise en français. En d'autres termes, un candidat peut remporter 50,1% des voix exprimées dans un État et l'ensemble des grands électeurs de cet État lui reviendront. Les swing states sont donc ces États dans lesquels la victoire d'un des deux partis en course se joue toujours à quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de voix près. Ce sont ceux où les candidats mettent le plus d'efforts, contrairement à New York, par exemple, acquis aux démocrates, ou le Texas, acquis aux républicains. Cette semaine, Trump et Harris étaient en Pennsylvanie, un état qui est revenu à Donald Trump en 2016 avec 0,72% d'écart avec Hillary Clinton et à Joe Biden en 2020 avec 1,16% d'écart avec l'ancien président républicain. C'était l'occasion de parler d'économie avec une visite de Donald Trump dans une usine d'armement et un meeting de la vice-présidente actuelle à la Carnegie Mellon University. Dans cet état industriel, Kamala Harris a insisté sur le fait que pour Donald Trump, je cite, « l'économie américaine se porte le mieux quand elle sert les propriétaires des grands buildings, pas ceux qui les construisent, pas ceux qui les raccordent à l'électricité, pas ceux qui nettoient le sol ». Fin de citation. De son côté, Donald Trump a surtout critiqué la venue du président ukrainien Zelensky dans une usine d'armement qui fournit les munitions utilisées en Ukraine comme une forme d'ingérence étrangère dans la campagne. plus que pour tous les États pivots, la Pennsylvanie sera scrutée par tous les Américains, puisque c'est l'un des seuls États qui n'autorise pas le traitement des votes par courrier avant le jour de l'élection. Avec les écarts infimes entre les candidats, cela rend les chances d'un verdict le jour de l'élection proche de zéro, selon un responsable du centre de tri des votes interrogé par CNN. Un délai qui garantit seulement le bon déroulé du dépouillement en Pennsylvanie, mais qui a donné lieu, dans les précédentes élections, à des critiques des deux bords. Avec les tensions entre les deux camps, cette année encore, il est certain que cet État de l'Est des États-Unis sera une nouvelle fois scruté et jouera un rôle important dans le dénouement de l'élection. 7h47 sur Radio Campus Tours, comment faire une matinale de l'école des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours, sans parler école de journalisme. Lou Attard nous a rejoint en studio pour évoquer le cas de l'Institut libre de journalisme, l'ILDJ.
Depuis quelques années, l'idéologie des droites investisse les médias, on parle même d'une extrême droitisation de l'espace médiatique. Et si les écoles de journalisme suivaient aussi cette tendance, Le Monde a enquêté sur l'Institut libre de journalisme, une école créée en 2018 qui revendique former des journalistes de droite. Lors d'une interview, Édouard de Pellou, directeur de l'ILDJ, se réjouit. Depuis quelques années, le grand combat qui a été gagné, c'est qu'il y a de plus en plus de chroniqueurs de droite sur les chaînes d'info. Mais le combat sera gagné le jour où le journaliste qui posera les questions à ce chroniqueur, le jour où le présentateur du JT auront aussi ces idées-là. Dans les conférences de l'école, plus de 80% des intervenants revendiquent un discours de politique d'extrême droite ou de droite. Ils sont éditorialistes à CNews, journalistes au Figaro et directeurs de rédaction du magazine Causeur. Pour recruter, cette école achète des encarts publicitaires dans des médias bien spécifiques, Valeurs Actuelles, L'Incorrect ou Famille Chrétienne. Cette orientation politique se reflète aussi dans le profil des étudiants. Sur 160 journalistes formés depuis 2018, les journalistes du Monde en ont retrouvé 128. Au moins 5 d'entre eux se sont présentés aux élections, dont 4 dans des listes du Rassemblement National et une pour Reconquête. Les autres militent pour les jeunes avec Zemmour, les jeunes LR ou la Cocarde. Les bancs de l'ILDJ sont aussi fréquentés par des partisans de groupuscules violents, conservateurs et radicaux, comme Génération Identitaire, Action Française et Tensum. Comptez 1250 euros pour les 10 week-ends de formation, une initiation aux techniques de journalisme qui comprend aussi des enseignements comme la culture chrétienne. Le directeur ne s'en cache pas, être chrétien vous ouvre les portes de l'ILDJ. À la sortie de l'école, la plupart choisissent des rédactions aux lignes éditoriales de droite et d'extrême droite. 17 ont travaillé pour CNews, 17 pour Le Figaro, 13 pour Valeurs Actuelles, 8 pour Boulevard Voltaire et 8 pour Causeur. La direction transmet à ses étudiants des offres d'emploi dont la majorité concerne des rédactions détenues par deux milliardaires conservateurs, Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Sterrin. Ce dernier était le premier investisseur dès l'école. Alors que près de 45% des étudiants formés travaillent à présent dans des médias de droite, d'autres ont choisi d'entrer dans d'autres écoles de journalisme, sans mentionner sur leur CV leur séjour à l'ILDJ.
Merci beaucoup Lou Attard pour cette analyse critique importante et nécessaire sur certaines pratiques dans les écoles de journalisme. On respire maintenant en musique et on espère que le logiciel ne nous fera pas encore une fois faux bond avec Shadow of the Day de Linkin Park. Pas du tout.
man.
Il est 7h54, vous êtes toujours dans Good Morning Tour sur Radio Campus Tour. Après les questions politiques évoquées précédemment dans l'émission, on a parlé bien sûr du gouvernement Barnier ou encore des idées de droite et d'extrême droite. Pourquoi ne pas s'évader un peu et revoir nos a priori sur l'écriture? C'est ce que nous propose aujourd'hui Jules Bourbotte, c'est à vous.
Écrire pour soi peut sembler évident pour un journaliste, pour moi non. Histoire d'un mec qui n'avait jamais vraiment pris le temps d'écrire sur lui, d'écrire sur les autres, ou sur n'importe quoi d'ailleurs. J'ai pas besoin d'un foutu journal intime pour mettre de l'ordre dans ma tête. Écrire c'est pour les écrivains, pour ceux qui ont la fibre. À la limite, quand il faut prendre des cours, et encore. Ou pour ne pas oublier un truc à faire, post-it ou liste de courses. Mes plus grosses productions écrites, les plus grosses, hein, pas les meilleures, c'est en partiel ou pendant les devoirs sur table il y a de ça quelques années. Au risque de vous surprendre, je ne pouvais pas plus me tromper. Écrire c'est thérapique, c'est cathartique et encore plein de mots en hic. Il paraît même que ça améliore le sommeil. Il y a 2 semaines, pendant un atelier d'écriture créative à l'école, j'en ai eu un petit aperçu. Dorothée Myriam Kellou, journaliste, écrivaine et intervenante de circonstances, était chargée d'animer l'exercice. Ma première production, quand elle nous a demandé de nous présenter à l'écrit, aurait pu s'appeler « Se présenter, c'est pour les cons ». Symbole d'un premier rejet de l'exercice demandé, c'était dur et ça c'est vu, ça c'est lu. Il fallait parler de soi et j'ai parlé des autres. Il y a peut-être un petit truc à interpréter là-dedans. Y a-t-il un psychologue dans la salle? Bref, en attendant, les faits sont là. Pour Sylvie Gendreau, professeure d'écriture créative à Montréal, c'est un double effet qui est déployé. Premièrement, une écriture aux vertus cathartiques, donc, on fait le deuil de souvenirs douloureux en permettant à l'esprit de recréer le moment. Cette fois préparé et de manière plus positive. On s'arme. C'est un peu comme quand, sous la douche, on repense à la réplique parfaitement cinglante qu'on aurait pu balancer la dernière fois qu'on s'est fait marcher sur les pieds. Ça changera rien, mais ça fait du bien. L'exercice entraîne également l'imaginaire, consolide la connaissance et donc pousse à la mettre en pratique. Les grands écrivains ont dû forger pour être forgerons, certains sont doués, mais tous ont eu à se muscler le poignet pour espérer sortir un best-seller. Plus on écrit, plus on est bon et plus ça fait du bien. Comme on dit, c'est un win-win. Donc, en plus de m'avoir été bénéfique, j'ai adoré écouter les histoires parfois drôles, souvent très touchantes de chacun. Les mots ont un vrai pouvoir, ils sont tantôt percutants, tantôt attendrissants, ils traduisent ce qu'on est au fond. Quand on est à poil devant l'auditoire, c'est un peu tout ce qui reste. Ne pas les utiliser, c'est une connerie. Et vous ne voulez pas vous retrouver à poil sans avoir rien à dire. Enfin, je crois.
Je crois aussi.
En bref, j'avais tort, mais avoir tort, c'est cool, je sais pas si vous avez déjà essayé. Donc, à vous, je recommande l'écriture. L'écriture seule ou en groupe avec des amis ou des inconnus, le papier ou les caractères numériques donnent une impression de protection tout en étant très vulnérable. On inscrit durablement des pensées que l'on pense fuyantes. Parce qu'au final, la musique, les films, le théâtre, bref, l'art qui nous touche, ce sont des histoires. Des histoires de gens qui ont eu le courage de se raconter aux autres, mais aussi des histoires de gens qui, surtout, ont eu le courage de commencer à écrire sur eux. Ça fait 3 minutes que je débite, alors que j'aurais juste pu vous dire qu'écrire, c'est cool. La preuve, j'avoue que j'ai adoré écrire cette chronique.
Merci beaucoup, Jules Borbotte, pour une chronique très bien écrite et à un moment suspendu et poétique. On poursuit maintenant avec Jules Frécon qui nous parle encore une fois d'écrit, mais cette fois-ci de lettres, de fans, d'une série que même les plus âgés, je pense, de la promo de Master 2 de l'EPJT n'ont pas connue.
Oui Théo, je vais vous parler de la série Hélène et les garçons, une sitcom française diffusée de 1992 à 1994. Elle racontait le quotidien d'une étudiante parisienne et de ses amis. Alors cette série, elle est peut-être davantage connue par vos parents, voire par vos grands-parents, mais la semaine dernière, elle a fait l'objet d'un article assez complet paru dans la revue des médias de l'INA. Avant de vous dire ce qu'il y a dans cet article, sachez d'abord que Hélène et les garçons, c'était une sitcom centrée sur les relations amoureuses et amicales d'un groupe d'amis. Hélène, l'héroïne de la série, était une étudiante parisienne d'une vingtaine d'années, jouée par l'actrice Hélène Rollès. Grâce aux thématiques qu'elle aborde, le programme était très visionné par des mineurs, parfois assez jeunes. Et justement, c'est grâce à ces enfants que Dominique Pasquier, une sociologue, a pu se rendre compte de la place importante que la série et son actrice principale jouaient dans la vie du jeune public. Pour la revue des médias, Mathieu Deslandes retrace justement le contenu de certaines des lettres retrouvées par Dominique Pasquier il y a plusieurs années maintenant. Des milliers de courriers d'enfants avaient été envoyés au studio de tournage à destination de l'héroïne de la série.
Et que contiennent ces lettres justement ?
Beaucoup d'entre elles sont remplies de cœurs soigneusement coloriés au crayon rose, elles sont aussi accompagnées de photos de l'héroïne glissées dans l'enveloppe dans l'espoir d'obtenir un autographe, et bien sûr ces mots d'enfants sont aussi parsemés de fautes d'orthographe. Mais certaines de ces lettres, à 90% écrites par des jeunes filles d'une dizaine d'années, permettent de se rendre compte du statut de confidente qu'avait obtenu l'actrice principale de la série auprès d'elle. Dans un courrier, Justine, 14 ans, lui confie par exemple être amoureuse de son meilleur ami. Elle est perdue et demande à Hélène Rollès. « Je voudrais que tu me dises comment ne pas gâcher notre amitié, je t'en supplie. » Plusieurs courriers sont similaires. En parlant d'un garçon de son collège qu'elle aime, une jeune fille indique. « Quand on s'est retrouvés tous les deux, il est devenu tout rouge. Aide-moi Hélène. » Ici, les messages constituent des questionnements assez classiques pour des enfants de cet âge. Mais quand Vanessa confie... Depuis un mois, je suis partie habiter chez mon père, car ma mère me battait et buvait. Alors, dans ce genre de cas, on peut se dire que ces courriers révèlent bien plus qu'une simple admiration du personnage confiant, populaire et élégant, incarné par Hélène Rollès. C'est peut-être l'absence d'une réelle oreille bienveillante qui a également poussé une adolescente landaise à se confier. « Mon secret, indique-t-elle, c'est que j'ai eu des rapports sexuels avec mon oncle et mon frère. Maintenant, ils sont en prison. » Des confidences de cette gravité-là, il y en a quelques-unes parmi celles dont la revue des médias fait écho dans son article. Elle ne représente pas la majorité des courriers reçus par la production de la série, mais la confiance accordée par ses enfants à la figure d'Hélène, en lui adressant ces mots, montre probablement les difficultés qu'ont certains adultes du monde réel à les aider.
Merci beaucoup Jules Frécon pour cette chronique, et puis on rappelle avec les derniers exemples cités que pour les enfants en danger, un numéro existe, le 119, pour signaler toute situation de violence ou qui semble suspecte impliquant des enfants. On retrouve maintenant, et pour terminer, Victoire Renard de Winter, il est quasiment 8h sur Radio Campus Tours, qui nous partage son expérience dans le cadre du stage obligatoire en presse quotidienne régionale entre les 2 années en école de journalisme à Pau, je crois.
Ouais, il faut que je vous avoue quelque chose, mais en fait j'ai voulu quitter Tours. En fait, je l'ai quitté pendant 2 mois. Contexte, un stage obligatoire pour l'école, un stage en presse quotidienne régionale. Donc il y a 1 an de pile, j'ai dû choisir une destination pour mon été. Dans ma vie d'étudiante, j'ai été à Reims, à Paris, puis je suis revenue à Tours, ma ville d'enfance, avec laquelle j'ai toujours eu en fait un peu de mal. Du coup, ce qui était sûr, c'est que je voulais partir autre part pour être en stage. Mais pour aller où ? Bah, aucune idée. J'ai pas d'attache particulière, mais ce que je voulais, c'était découvrir une ville et surtout partir seule. Donc, processus de choix, toujours aussi difficile pour moi, hein, je tiens à le préciser. J'ai réellement passé plusieurs heures devant la carte de France. Et en vrai, bah, c'est étendu la France, il y a genre 35 000 communes. Et mon choix s'est arrêté, sud-ouest de la France, département Pyrénées-Atlantique, Pau. Pourquoi ? Bah, 1 heure de la mer, 1 heure de la montagne. J'avais déjà assimilé les avantages de la ville vue par les Palois. Donc 30 juin, me voilà. Pau compte maintenant 77 000 habitants, et moi. Là-bas, un adulte sur 3 est retraité, un havre de paix pour vivre tranquillement, et ça, bah, je l'ai bien ressenti en arrivant. C'est vraiment paisible, la nature est partout, les montagnes apportent vraiment quelque chose d'apaisant. Et vous connaissez la promenade des Anglais à Nice ? Ben à Pau, ben, y a à peu près la même chose. Mais au lieu de la mer, ben, c'est les Pyrénées. Les palmiers et la rambarde verte accompagnent les promeneurs sur quasiment 2 km. Tout au bout, il y a un château construit au bord de la falaise. Mais pas n'importe lequel, hein, parce qu'en 1553, le futur roi Henri IV y naît. Et la légende dit que son berceau, ben, en fait, c'était une carapace de tortue. Ouais, je sais, c'est bien particulier, mais bon, ben, ça fait la fierté de beaucoup de Palois. Hein. Par contre, bah, faut pas trop leur parler de la pluie, parce qu'il pleut vraiment beaucoup. 1473 mm chaque année, donc c'est deux fois plus que Tours, je vous laisse imaginer. Mais bon, moi j'aimais bien, parce que c'est très orage de montagne, quoi, qui fait trembler les murs de la maison. Mais quand ça se calme, bah, on a l'impression que tout autour de soi vit trois fois plus intensément. Les couleurs sont plus vives, les odeurs plus fortes. Vous me croyez si je vous dis qu'il y a même des que même les oiseaux chantent plus fort. Enfin bref, on se sent vraiment vivant. Vivant, je crois que c'est le mot que je vais utiliser pour décrire les personnes là-bas. J'ai rencontré Naïma, et à 7 ans, elle fait du foot et du skate. Elle est trop stylée, quoi. Il y a Brigitte, retraitée, qui n'a pas oublié de s'occuper en réparant toutes sortes de bijoux. Et pédagogue, elle m'a poussée à me lancer dans mes propres créations. J'écoute encore les CD offerts par Thierry, mon voisin, fan de toutes sortes de musiques. Je me repasse des moments lunaires passés avec un baroudeur propriétaire de 4 bâtons de marche, 3 paires de lunettes, parce que bah, pourquoi pas, un titulaire de pas moins de 6 prénoms. Enfin bref, autant d'âmes qui font vivre la ville. Et surtout, ces personnes sont fières. Fières de leur culture, le Béarn. On y mange bien, fromage, osso irati, le jambon de Bayonne, qu'on accompagne en buvant du jurançon. Il y a même une langue, voilà, qui s'appelle l'occitan. Et dans la ville, il y a un quartier qui s'appelle la Ciutat, qui veut dire cité, où on retrouve toute cette culture. Donc il y a des assos où on peut prendre des cours de danse traditionnelle, des bars où on rentre en disant « adiou », « bonjour » en occitan. L'autre mot que j'ai appris, c'est « adichat », ça veut dire « au revoir », parce que c'est bientôt la fin de ma chronique, et je suis ravie de vous avoir fait découvrir cette ville coup de cœur, où je me suis sentie bien là-bas. Et cette dynamique, je l'emporte un peu partout avec moi, et je vous souhaite à tous de découvrir ou de chérir les endroits où vous vous sentez bien. « Adichat ».
Eh bien, Adichat, c'est merci beaucoup Victoire Renard de Winter pour cette chronique qui, j'en suis sûr, donnera envie à beaucoup de découvrir cette belle ville de Pau. Il est 8h03 sur Radio Campus Tours. Déjà l'heure de vous remercier d'avoir écouté cette deuxième édition de Good Morning Tours de l'année. J'aimerais, comme d'habitude, saluer chaleureusement toute l'équipe qui a rendu cette émission possible. Merci à Baptiste Villermé, Mathis Maudet, Jules Bourbotte, Angelina Richard, Jules Frécon et Lou Attard pour leurs chroniques et leurs flash info au sport. Un remerciement spécial à Victoire Renard de Winter qui a assuré au micro et à la technique, comme toujours. Il est temps donc de se quitter. N'hésitez pas à aller consulter le Twitter de l'émission pour ne pas rater un replay ou directement sur le site de Radio Campus Tours. Rendez-vous la semaine prochaine, 7h15 sur le 99.5 FM pour une nouvelle matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Très belle journée à toutes et à tous.